Bonjour chers fidèles d'IDFM, aujourd'hui dans Rendez-vous Compte, nous allons mettre le pied à l'étrier, monter sur nos grands chevaux et quant à moi, je vais essayer de ne pas faire cavalier seul, Rendez-vous Compte. Bonjour Edouard.
Bonjour Didier.
Edouard Saint-Flou.
C'est ça.
Voilà. Et bonjour aussi à Marine. Marine Gauvin, qui a toujours pas de micro, mais qui a son grand sourire. Alors Marine qui va, comme d'habitude, croquer sur son joli carnet, notre invité de ce jour, Edouard. Et on retrouvera les croquis de Marine à la fin sur le podcast de notre émission. Alors, Edouard, tu habites à Montmorency?
Oui.
Enfin, quand tu es dans la région?
Quand je suis dans la région,
c'est... Voilà. Ancien élève à Notre-Dame de Bury, Margency?
Oui.
Un petit message pour...
Oui, tous mes anciens potes, la majorité de mes amis aujourd'hui sont des anciens amis de Bury. Enfin, l'amitié a suffisamment été construite pour les garder aujourd'hui, malgré, là, ça fait 6 ans que je suis parti de Bury.
Alors, chers auditeurs, vous l'avez peut-être compris, ma petite introduction avec Edouard, nous allons parler cheval et équitation.
Oui,
voilà.
C'est ça.
Quel centre équestre au départ?
Toujours le même. Ça fait 11 ans maintenant que je monte au centre équestre de la Forêt à Andy. Toujours entièrement amoureux de ce club et de ce qu'il était au début jusqu'à ce qu'il est devenu aujourd'hui.
D'accord. Alors d'où vient cette passion pour le cheval? Parce que c'est une vraie passion.
Alors c'est une histoire qui est un peu drôle, mais j'ai toujours aimé les animaux. Mais quand j'étais petit, j'ai voulu avoir un chien et il se trouve que j'étais, moi et ma sœur, on était allergiques aux poils de chien et à la poussière. Donc forcément, ça aide pas. Et mes parents se sont dit que ça pouvait être une bonne idée de m'inscrire dans un centre équestre pour avoir le contact avec l'animal et ne pas envoyer ma sœur en crise allergique tous les soirs à cause du chien. Et donc c'est un peu par hasard que j'ai commencé l'équitation. Et encore plus le club en lui-même, puisque de tous les clubs que j'ai visités avant de m'inscrire, c'est le seul que j'ai pas vraiment visité. On s'est juste garé sur le parking, c'était le soir. On avait déjà visité 3. Et on en avait marre, et j'ai juste vu le club à travers la fenêtre de la voiture, et je me suis dit, c'est l'air sympa, c'est là.
Et ça s'est révélé un bon choix.
C'était un excellent choix.
Pourquoi?
Parce que l'ambiance y est familiale, qu'il n'y a pas d'attente. On prend le temps pour chaque cavalier de lui apprendre à construire une relation avec l'animal, et une fois qu'on voit que le cavalier est suffisamment digne de confiance, c'est incroyable. Voilà, moi j'y passe plusieurs journées par semaine et je mets peut-être l'endroit où je me sens le mieux.
D'accord. Un bon niveau?
Un bon niveau à 11 ans, heureusement. Un galop 5 depuis 2 ans, préparation du galop 6 cette année. Voilà, donc on continue à monter les échelons.
Et aussi bénévolat pour des activités de palefrenier?
Oui, alors ça c'est un peu drôle en fait, ça vient avec mon parcours universitaire, mais j'avais besoin de me vider la tête parce que j'étais bloqué sur mes recherches et j'arrivais plus à avancer. Et c'est ce que je fais en général pour m'aider à réfléchir, je vais me balader en forêt, le club est à l'entrée de la forêt maintenant aussi. Et un jour je me gare et il y a mes coachs qui sont en train de curer les écuries, ce qu'elles font tous les mardis, jeudis et vendredis. Et elles me disent viens nous rejoindre, viens nous aider si tu veux te vider la tête. Et je pensais que c'était une blague, donc je suis juste parti en forêt tout seul. Et la semaine d'après, quand je les ai revues, elles m'ont dit t'es pas venu nous aider machin. Et j'ai dit non je... Et en fait c'est comme ça que j'ai dit si tu veux je viens la semaine prochaine et puis on commence. Et en fait j'ai jamais arrêté. Et là ça fait depuis juin, peut-être mai dernier, que je fais ça tous les mardis dès que je peux. Voilà, et c'est un autre rapport au club aussi, parce qu'on est plus déjà on est piétons. Et ensuite...
Piéton. Voilà, c'est drôle.
On est piéton, oui. On est plus proche de l'animal, sans le côté équitation, mais juste le rapport à l'animal.
Ok.
Et puis l'ambiance est plus conviviale.
Ouais. On va justement écouter Jessica, qui nous présentait lors de la journée des associations à Anguin en septembre dernier. Alors non pas le club d'Andilly, mais le centre équestre de Montmagny.
Bonjour, je suis avec Jessica. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à la fête des associations?
Alors, aujourd'hui, à la fête des associations, on vient faire découvrir l'équitation aux jeunes sur une petite animation de baptême poney pour des petits-enfants entre 2 ans et demi et 12 ans.
Donc, vous êtes quel club?
On est le centre équestre de Montmagny.
Donc, initiation pour vraiment des enfants, des petits?
Oui, tout à fait. Là, aujourd'hui, initiation baptême pour les petits, mais on propose de l'équitation à partir de l'âge de 2 ans et demi et jusqu'aux adultes. On accompagne aussi les enfants en situation de handicap.
Oui, en partenariat avec une autre association, je crois.
avec plusieurs autres associations et notamment l'association Élan qui souhaite faire un partenariat avec nous pour la suite.
Alors comment réagissent les petits là, qui sont sur les poneys peut-être pour la première fois ?
Alors certains peuvent avoir un peu de crainte mais à la fin sont super contents et ont un grand sourire et souvent ne veulent plus redescendre de poney tellement ils ont aimé ça.
Donc ils viennent s'inscrire au club ?
Avec plaisir. Oui, oui, tout à fait, c'est l'objectif aussi. C'est qu'ils viennent participer avec nous à nos activités équestres toute l'année.
Je crois que ce club, c'est une histoire de famille.
Tout à fait. On travaille depuis plus de 30 ans maintenant ensemble sur le centre équestre de Montmagny, donc avec mon papa, ma maman et ma sœur. On travaille donc à quatre sur la structure.
C'est peut-être pas toujours facile de travailler en famille, si ?
Il y a des contraintes et des inconvénients, mais au final, tout se passe plutôt bien.
Donc vous avez, je sais pas, des poneys, des chevaux ?
Alors oui, on a des équidés donc Shetland de petite taille pour les enfants et on a aussi des doubles poneys et des chevaux. Nos cavaliers, dès le plus jeune âge, participent à des compétitions jusqu'au niveau championnat de France.
Ah oui, donc c'est quand même une route qui est longue et intéressante.
Tout à fait. On commence tout petit et puis on peut continuer jusqu'aux chevaux en fait. Hein. En compétition ou non, d'ailleurs, on fait aussi du loisir pour les enfants qui ne souhaitent pas participer en compétition.
Et alors, à qui appartiennent ces chevaux, ces poneys ?
Alors, les chevaux nous appartiennent tous. Nous sommes aussi éleveurs, donc la plupart des poneys qui sont dans notre écurie sont nés de notre élevage. Donc, on les connaît depuis vraiment la naissance.
D'accord. Donc éventuellement, vous en vendez vous,
Oui, oui. Parfois aussi, quand il y a trop d'équidés, la structure ne permettant pas d'avoir un effectif énorme, on est à 50 équidés sur la structure. Il nous arrive aussi d'en vendre pour des particuliers ou pour d'autres centres équestres.
Et vous-même, vous continuez à pratiquer ou vous n'avez plus le temps ?
Alors, un peu moins le temps pour la compétition. Je continue à pratiquer pour mon plaisir et pour travailler les chevaux du centre équestre. Par contre, en compétition, beaucoup moins parce que le temps me le permet un petit peu moins.
Est-ce que la situation est facile pour les centres équestres en ce moment ?
Facile, oui et non. Elle a été très difficile quand la TVA avait changé. Là, on a eu quand même une TVA qui a changé et qui est repassée à 5,5, ce qui nous a quand même un petit peu aidé. Néanmoins, ça reste une activité qui est plutôt pérenne.
Et pendant le Covid ?
Alors pendant le Covid, on a été obligé de fermer nos structures sur le premier confinement. Sur le deuxième confinement, on a eu le droit de réouvrir. Et donc les enfants avaient cette possibilité de retrouver leur sport, ce qui leur a fait grand bien.
Est-ce que vous avez des enfants qui commencent très jeunes et qui continuent jusqu'à l'âge adulte ?
Ah oui, 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 on a des enfants qu'on suit de tout petit jusqu'à ce qu'ils fassent de grandes études et qu'ils soient adultes. Et leurs enfants eux-mêmes viennent ensuite faire du poney.
Et si vous aviez un argument à donner à tous ceux qui nous entendent pour vous rejoindre ?
Si j'avais un argument à donner, une passion extraordinaire. Les enfants, ils adorent vraiment être au contact des poneys. Ça leur donne vraiment une notion d'autonomie et de respect qui est extrêmement importante. Et puis, bon, la joie d'être à poney et de se sentir libre sur le dos d'un cheval, c'est juste exceptionnel. Donc, n'hésitez pas, venez participer et voir un petit peu ce que c'est que l'équitation qui est un véritable sport.
Alors, est-ce qu'il y a plus de filles que de garçons ou est-ce que c'est assez équilibré ?
Alors il y a vraiment plus de filles que de garçons, effectivement, sauf dans le haut niveau où on va retrouver beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais effectivement, la Fédération française enregistre beaucoup plus de licences filles que de licences garçons.
Comment ça se fait ? Parce que quand même, un cheval, c'est impressionnant, je veux dire, c'est une force musculaire.
Mais je pense que le côté... pour les filles, le côté pansage, brosser le poney, s'en occuper, les soins, tout ça vraiment, ça les attire un peu plus que peut-être les garçons qui préfèrent aller jouer au foot ou autre, ou faire un sport de combat. C'est peut-être ce relationnel avec l'animal qui attire plus les filles que les garçons, je ne sais pas. En tout cas, effectivement, c'est un sport qui est plus pratiqué par les filles.
Comment est-ce qu'on fait pour vous joindre ?
Eh ben, on a un numéro de téléphone qui est le 06 79 65 66 65. Et puis, on peut nous retrouver sur Internet, sur le site Internet, en tapant Centre équestre de Montmagny. Et vous aurez toutes les informations disponibles. On a aussi une adresse mail et vous pourrez y accéder directement via le site.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Promis cette jument, c'est dégueulasse.
Ça va pas, non ? Allez, rends-moi ça.
Non,
allez,
moi. Je...
C'est fou la différence.
Qu'est-ce qui vous amène, mademoiselle? Tenez votre contrat.
J'ai une condition. Je veux pouvoir monter un cheval pour moi.
Ici, on fait du dressage, du haut niveau, des chevaux allemands.
Les jeunes chevaux, c'est les jeunes chevaux. C'est le même boulot partout.
Oh, tu parles. Un boulot où les bons chevaux sont pour les autres, comme d'hab.
Avance! Foule en avant! Ouvre tes genoux, ferme tes jambes.
T'as bien vu qu'il est pas cassé, ce cheval.
J'ai pas vu grand-chose.
Vous le rentrez, vous allez faire l'inventaire des clôtures.
Faut avoir le niveau avant de travailler avec Franzmann.
Vous les emmenez tous en annuel?
Tous ceux-là, oui. Gros concours égale gros business.
Qui monte les autres pendant votre absence?
Personne monte personne quand on est pas là.
Tu veux que je leur dise que t'as monté le cheval quand ils reviendront?
Ben c'est ça, vas-y, reste un esclave.
Vous manquez pas d'air. Vous voulez que je porte plainte pour vol?
Monsieur Mann, je voulais vous voir. Je veux faire de la compétition avec vous.
T'as pas ce qu'il faut, ma belle. Ils vont venir chercher le cheval et ta petite aventure sera terminée.
On peut savoir ce qui se passe?
Tu descends.
Non.
Incarnation, c'est incarnation. T'en auras d'autres.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM dans ce rendez-vous compte où Edouard Saint-Flou. Edouard va continuer à nous parler de sa passion pour l'équitation. Edouard, première pause musicale, alors tu as demandé.
Exactement, oui. Ce sont des musiques qui m'accompagnent dans mes recherches parce que je trouve qu'elles sont un peu... elles invitent à la grandeur. Et quand on fait l'histoire, surtout l'histoire de France, c'est intéressant d'être inspiré comme ça dans nos recherches.
Donc, quelle bande originale?
Alors, bande originale du film Les Trois Mousquetaires que j'écoute en boucle. Parce que voilà, le cheval, il tient un rôle important à la fois dans les cascades et juste dans les grandes scènes. Et voilà, c'est vraiment... quand j'écoute ces musiques, je me vois vraiment... aux archives, donc aux archives de la Défense ou aux archives nationales, à feuilleter des pages et essayer de trouver les quelques lignes qui font mention du cheval pour espérer faire quelque chose de bien.
Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM dans ce rendez-vous compte où Edouard Saint-Flou. Edouard va continuer à nous parler de sa passion pour l'équitation, mais une passion qui s'est conjuguée avec le choix de tes études supérieures.
C'est ça, exactement, à partir du M1, en fait.
Première année de master
l'année dernière. Où j'ai, en fait, je suis en master d'histoire, spécialité histoire militaire, et c'est un master de recherche à Paris 4. Et il a fallu trouver un sujet, et le sujet s'est porté sur le cheval, parce que c'est de la recherche. La recherche, c'est parfois long, parfois on en a marre et on a envie de tout jeter par la fenêtre. Et donc, je me suis dit qu'il fallait absolument un sujet passion, parce que sinon j'allais lâcher. Et en fait, l'équitation est le seul domaine qui m'a fait tenir. Et en fait, je ne me suis jamais senti aussi heureux que depuis que j'ai commencé à travailler sur l'histoire du cheval.
Marc, quand on fait un master à Henri IV, déjà, c'est déjà pas mal.
C'est pas Henri IV, c'est Paris IV.
Paris IV. Ah, j'avais entendu Henri IV.
C'est Sorbonne Université.
Il n'y a pas d'université Henri IV.
non,
mais voilà. Donc, un master quand même. Quel est le titre exact? C'est quand même bien pointu.
Alors, le titre, c'est « Les chevaux des gardes du corps et des grenadiers à cheval de la maison du roi sur une période qui s'étend de la fin du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle ».
Alors, pour un novice, un petit peu, qu'est-ce qu'on peut raconter?
Alors, ouais. La première chose à dire, c'est que ce n'est pas un master qui traite de l'homme et du cavalier, c'est un master qui traite du cheval, et c'est un mémoire qui traite du cheval. Donc, c'est l'idée de faire de l'histoire par le point de vue de l'animal et pas celui de l'homme. Alors, c'est un point de vue historique qui a déjà été travaillé par Éric Baratet, notamment, quand j'y pense. Et ensuite, sur le sujet en lui-même, pour faire très simple, c'est les gardes du corps et les grenadiers à cheval. Ce sont deux unités qui font partie de ce qu'on pourrait appeler l'élite de l'armée du roi de France. Et les gardes du corps, c'est peut-être l'élite de l'élite, littéralement les gardes du corps du roi. Et à côté de ça, les grenadiers à cheval, c'est un peu l'inverse. C'est un peu la cinquième roue du carrosse de la maison du roi. Ils sont plus ou moins intégrés dans ces unités. Et ça fait deux unités qui sont très différentes et pourtant... Dans les sources historiques, elles sont administrativement attachées ensemble à cause de l'histoire et grâce à l'histoire. Et donc, ça fait un bon binôme de travail. Et voilà, pour pas trop m'étendre et pour quand même avoir des bornes d'un sujet, il a fallu que je choisisse deux unités. Et c'est de là qu'ils ont été choisis.
Et alors, il a fallu convaincre, j'imagine, le directeur de thèse.
Exactement. directeur de mémoire de thèse, ensuite. Mmh. C'est le professeur Olivier Chaline qui a bien accepté de vouloir me suivre dans cette idée un peu farfelue. En même temps, il me l'a dit tout de suite. Il m'a dit que pour travailler sur les chevaux, il fallait avoir une expérience et que c'est un peu comme travailler sur les bateaux et ne jamais avoir mis les pieds sur un bateau. Ça aide pas forcément. Et en l'occurrence, il a bien voulu me suivre. Et en fait, à chaque fois qu'on parle de mon mémoire, ça va tout seul parce que. Dans mon écriture, je présente les choses du point de vue de quelqu'un qui fréquente les chevaux et qui, voilà, je ne vais pas dire jusqu'à les connaître, mais qui les imagine plutôt bien. Et donc, forcément, ça coule tout seul. Et dans les résultats qu'il y a derrière également, ça va super.
Mention très bien.
Mention très bien au M1, exactement. L'idée, c'est d'avoir le même résultat au M2. Donc, on va essayer, sur ce dernier semestre, de finir en beauté.
A priori, on va sauter l'obstacle.
A priori, ça va bien se passer. Oui.
Avec un stage à Versailles, évidemment, si je puis dire.
Oui, évidemment. J'en ai parlé à... Alors, c'est Madame Karine McGrath qui dirige le service d'archives du château de Versailles. Je lui en ai parlé. On a échangé dès octobre de l'année dernière, de 2024. Le stage s'est fait. On a appris, on s'est vu aussi au Salon du Cheval. Et donc, j'ai travaillé sur... l'élaboration d'un guide sur les sources qui ont servi, qui entourent les écuries du château. Donc de l'histoire par les archives et en plus de l'histoire sur les écuries, le cadre était exceptionnel parce que c'est le château de Versailles en juillet, donc c'est absolument magnifique et vraiment un super stage.
Est-ce qu'on se sent un petit peu un personnage historique quand on est dans ce cadre et qu'on travaille sur cette période
en tant que apprenti chercheur en histoire, je pense qu'on se sent tout petit surtout. On se sent au milieu de vraiment au cœur de l'histoire de France, ouais. Et on se sent vraiment minuscule. Voilà. Mais aller prendre son déjeuner à côté de la place des Suisses, ça reste sympa tout, en plein mois de juillet.
Il y a pire,
ouais.
On va écouter une deuxième pause musicale. Alors cette fois, c'est moi qui ai choisi. C'est une très belle chanson de Julien Clerc qui s'appelle « La romance du petit cheval ». Une chanson qui date de 2011. Tu connais ?
Je ne connais pas, mais j'écouterai ça.
Très belle chanson, on écoute.
Quand je vois le petit cheval marcher au pas de ma romance, le ciel d'hiver me semble immense, le ciel d'hiver me semble immense. La neige muette et blanche sur la ville endormie passe les souvenirs, un cirque déambule, un petit chimpanzé, un trapèze volant et cet âne battu qui ne sait pas compter. Un, deux, trois, un, deux, trois. Quand je vois le petit cheval marcher au pas de ma romance, le ciel d'hiver me semble immense, le ciel d'hiver me semble immense. Est-ce ma mère là-haut, derrière les rideaux? Est-ce mon cœur qui bat ou mon pas dans la neige? Est-ce le rire de mon frère me serrant dans ses bras? Est-ce le jour qui se lève? Est-ce la fin de nos rêves? Un, deux, trois, un, deux, trois. Quand je vois le petit cheval marcher au pas de ma romance, le ciel d'hiver me semble immense, le ciel d'hiver me semble.
IDFM, 98FM.
Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM dans ce rendez-vous compte où Edouard Saint-Flou. Edouard va continuer à nous parler de sa passion pour l'équitation. Alors, importance des statues équestres peut-être quand même. Est-ce que c'est un peu un de tes domaines de recherche?
Les statues équestres, ça ne l'est pas pour l'instant parce que je ne travaille pas sur les souverains en eux-mêmes. L'idée, ce serait de travailler dessus l'année prochaine en doctorat. Travailler sur, en fait, l'idée, c'est de poursuivre avec le questionnement de savoir si ce qu'on pourrait appeler le cheval, déjà, est-ce qu'il existe un cheval royal, et ensuite, est-ce que ce cheval royal serait un cheval de guerre ou pas. Voilà, ça invite à questionner l'identité que veut se donner le monarque et donc quels chevaux il utilise et si les chevaux qu'il utilise sont les bons chevaux pour tel usage. Voilà, donc ça invite à la fois à construire, définir ce qu'est un cheval de guerre royal, un cheval royal, et ensuite voir dans les faits, est-ce qu'on utilise les bons chevaux pour les bons usages ou est-ce que c'est juste de la représentation ou il y a une différence entre les représentations et la réalité.
Ouais, parce que c'est pas pour rien qu'on représente le roi souvent à cheval.
Exactement, il y a une...
Depuis les empereurs romains.
Depuis, exactement, c'est... Il y a un sentiment, mais ça je pense que tout cavalier... Qui connaît un peu l'histoire peut le comprendre, c'est que quand on est en symbiose avec l'animal, quand il y a cette idée de bien maîtriser un cheval, si on maîtrise bien son cheval, on maîtrise bien son royaume, enfin, c'est un peu l'idée, comme là où l'équitation est un miroir de la façon dont on va gouverner. Donc forcément, la statue de Louis XIV sur la place d'armes à Versailles, ça... Ça impressionne.
Ouais, et puis aussi par rapport au peuple, voir un souverain à cheval aussi, il y a ce côté un petit peu supérieur justement, rien que le fait d'être à cheval peut-être.
Supérieur, je m'avancerai pas là-dessus. Après, je dirais plutôt, ça aide dans la représentation face aux autres puissances, aux autres royaumes, etc. C'est une affirmation du pouvoir aussi que de se montrer à cheval. Et moi, ce que j'aimerais vraiment étudier, c'est quel cheval on utilise et s'il y a une compréhension de voilà, ça c'est tel cheval pour tel usage et en l'occurrence pour l'usage militaire, et est-ce qu'il y a une résonance derrière voilà.
Et puis aussi l'importance diplomatique du cheval finalement.
Exactement, ça c'est justement le dernier bout de mon mémoire que je suis actuellement en train d'écrire, où je travaille sur donc, les chevaux de ces unités mais en temps de paix, et l'utilisation de ces chevaux par exemple pour les escortes de convois diplomatiques. Et plus tard, c'est aussi le cheval en tant que cadeau diplomatique, voilà, comme un outil diplomatique fort, en fait, un symbole fort et un beau cadeau.
C'est un lien comme ça qui m'apparaît, mais au début du 19e siècle, le souverain d'Égypte a offert au roi de France, alors non pas un cheval, mais une girafe. Et la première girafe qui est rentrée en France comme cadeau du souverain d'Égypte à la France.
Ah, c'est un peu comme l'éléphant de Charlemagne.
C'est, voilà.
C'est utiliser les animaux comme cadeau diplomatique, c'est quelque chose de fort parce que l'animal est vivant et que bah une girafe c'est un peu exceptionnel.
Surtout que les gens n'avaient jamais vu de girafe vivante.
Il me semble qu'elle a été mise à la ménagerie.
Voilà, exactement. Est-ce qu'aujourd'hui encore, le cheval joue un peu ce rôle ou c'est fini ?
En termes de cadeaux diplomatiques, malheureusement, je pense ne pas connaître suffisamment le sujet pour m'avancer dessus, donc je n'ai pas du tout envie de dire de bêtises. Non, on sait que le panda joue à peu près ce rôle.
Le panda.
Le panda avec la diplomatie et la chinoise, donc pas de raison que le cheval ne tienne plus ce rôle, parce que ça reste un outil important pour des entreprises et des lobbies très forts dans le monde du cheval.
Ce qu'on appelle le soft power.
Ouais, exactement, tout à fait.
Cette statue de Louis XIV a eu un destin tragique et miraculeux. Elle devait être la rencontre entre le plus grand roi de son temps et le plus grand sculpteur italien du XVIIe siècle. Hélas, commandée en 1665 par un Louis XIV de 27 ans, à Gian Lorenzo Bernini, dit le Bernin, surnommé le nouveau Michel-Ange, elle causa au roi Soleil une terrible déception quand il l'a reçue 20 ans plus tard. Taillée directement dans un bloc de marbre de 8 mètres de haut, achevé à Rome en 1674, la statue n'arriva en France qu'en 1685, 5 ans après la mort du sculpteur, alors que Louis XIV avait 47 ans et qu'il avait beaucoup changé. Installé dans le nouveau bâtiment de l'Orangerie à Versailles, le roi, en la découvrant, éclata dans une colère folle. Il trouva le cavalier et sa monture si mal fait qu'il résolut de la faire briser. Puis, il se contenta de l'éloigner jusqu'au bassin de Neptune et 2 ans plus tard, de la faire modifier par le sculpteur François Girardon. Celui-ci lui posa un casque sur la tête, transforma le rocher qui soutenait le cheval en buisson de flammes et la rebaptisa du nom d'un général romain de l'Antiquité, Marcus Curtius. Et la statue se retrouva exilée encore plus loin, tout au bout de la pièce d'eau des Suisses. Et c'est là que le miracle intervient, car son isolement et sa nouvelle identité la sauvèrent pendant la Révolution. La vindicte populaire détruisit toutes les statues royales, mais elle épargna Marcus Curtius, qui s'était jeté dans les flammes pour sauver la République romaine.
IDFM, 98FM.
Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM dans ce rendez-vous compte où Édouard s'influe. Édouard va continuer à nous parler de sa passion pour l'équitation. Alors, compétences universitaires, j'ai vu paléographie moderne.
Ah, la paléographie.
Qu'est-ce
moderne.
Que c'est que la paléographie ?
C'est...
Et surtout moderne, parce qu'a priori, paléo et moderne, ça va pas ensemble.
Alors, d'un point de vue historique, on appelle la période moderne la période qui s'étend de la découverte de l'Amérique jusque. Alors, ça fait débat, mais on peut tirer jusqu'à la Révolution française. Donc, la moderne, c'est le bon terme, et la paléographie, c'est. Alors, je n'ai pas du tout envie de me faire découper par mes anciens professeurs de paléographie, mais je dirais que c'est l'étude à la fois des textes anciens, mais aussi de la façon dont on écrivait les textes, et de l'étude des lettres et des tracés des lettres. Et en fait, c'est vraiment assez passionnant parce que on pense, quand on fait de la recherche en histoire, j'ai dit moderne parce qu'il y a la paléographie médiévale qui c'est une transition vers la paléographie moderne. Quand on fait de la recherche en histoire, ce qu'on ne voit pas tout de suite arriver, c'est l'impossibilité de lire les textes. Parce que si c'est écrit en français du XVIe siècle, si on n'a pas un minimum d'initiation, on n'arrivera pas à lire. Et en fait, c'est passionnant parce qu'on a l'impression de redécouvrir une langue. Parce que déjà, les lettres sont différentes, les mots sont différents. Et c'est absolument passionnant de passer d'un texte où on a l'impression de ne pas pouvoir lire ne serait-ce qu'un mot à un texte qu'on comprend entièrement et voir. Bah, moi, j'en faisais au premier semestre, là, en raison des inscriptions pédagogiques, j'ai pas pu le reprendre au second semestre. Mais c'est voilà, des lettres de Catherine de Médicis, Voilà, c'est vraiment, on décrypte l'histoire un peu. C'est vraiment une science de base et c'est utile, c'est extrêmement utile pour la recherche. Et j'invite tout le monde à essayer une fois la paléographie parce que c'est absolument intéressant à faire.
Bienvenue à Versailles. À l'occasion de la parution du hors-série La culture à l'heure des jeux, édité par Connaissance des arts avec le ministère de la Culture, venez découvrir avec moi le cheval en majesté au cœur d'une civilisation, Autreau. L'exposition, forte de 300 œuvres, se divise en 14 sections réparties entre plusieurs endroits emblématiques du château.
Ça fait personnellement 10 ans que je travaille sur ce sujet absolument immense en fait. Le cheval, c'est presque un monde à étudier. Donc nous abordons à la fois le cheval, à la fois politique, diplomatique, scientifique, militaire, mais aussi même dans l'imaginaire et la symbolique.
La galerie de Pierre-Haute est devenue pour l'heure un véritable panthéon des équidés, avec les montures préférées de quelques princes, souverains et empereurs. Un peu plus loin, deux figures s'opposent. Le cheval de guerre, ce héros à quatre pattes, et le cheval de jeu, source de divertissement, qui incarne les valeurs chevaleresques. Le salon d'Hercule abrite de superbes armures d'apparat, et le salon de la guerre des chanfreins, protection élaborée pour les oreilles et les naseaux des animaux, hors d'usage depuis le XVIIe siècle. Dans la Galerie des Glaces trône un chef-d'œuvre redécouvert après deux siècles d'oubli et jamais montré en France. Un portrait de Justus Sustermans figurant le jeune prince Léopold de Médicis, âgé de 7 ans, sur sa gracieuse jument blanche. Le saviez-vous, les artistes, notamment Léonard de Vinci et son maître Andrea del Verrocchio, ont précédé les scientifiques dans l'étude de l'anatomie du cheval. Cap sur l'appartement de la dauphine où le cheval modèle dont les artistes essayent de saisir la beauté voire l'âme cohabite avec des créatures comme la licorne, le centaure, Pégase qui ont hérité de ses traits. La fin de l'exposition évoque un changement civilisationnel, le remplacement de nos fidèles destriers par l'automobile et le train, entre autres modes de transport modernes.
J'étais bien plus heureux avant, quand j'étais cheval, que je traînais, madame, votre landau, jolie madame, dans les rues de Bordeaux. Mais tu as voulu que je sois ton amant, tu as même voulu que je quitte ma jument. Je n'étais qu'un cheval, oui, oui, mais tu en as profité, par amour pour toi, je me suis déjumenté depuis toutes les nuits. Dans ton lit de satin blanc, je regrette mon écurie et ma jument. J'étais vraiment, vraiment bien plus heureux avant, quand j'étais cheval, que tu foutais, madame, la gueule par terre. Jolie madame, quand tu forçais le cerf, mais tu as voulu que j'apprenne les bonnes manières. Tu as voulu que je marche sur les pattes derrière. J'étais qu'un cheval, oui, oui, mais tu m'as couillonné, hein. Par amour pour toi, je me suis derriérisé. Depuis toutes les nuits, quand nous dansons le tango, je regrette mon écurie et mon galop. J'étais vraiment, vraiment bien plus heureux avant, quand j'étais cheval, que je te promenais, madame, sur mon dos, jolie madame, en forêt de Fontainebleau. Mais tu as voulu que je sois ton banquier, tu as même voulu que je me mette à chanter. Je n'étais qu'un cheval, oui, oui, mais tu en as abusé. Par amour pour toi, je me suis variété. Depuis toutes les nuits, quand je chante, ne me quitte pas. Je regrette mon écurie et mes silences d'autrefois. Et puis, tu es parti. Radical, avec un zèbre mal rayé. Le jour, madame, où je t'ai refusé d'apprendre à monter à cheval. Mais tu m'avais pris ma jument, mon silence, mes sabots, mon écurie, mon galop. Tu ne m'as laissé que mes dents. Et voilà pourquoi je cours. Je cours le monde en hennissant, me voyant refuser l'amour par les femmes et par les juments. J'étais vraiment, vraiment bien plus heureux, bien plus heureux avant, quand j'étais cheval, que je promenais, madame, votre landau, quand j'étais cheval, et quand tu étais chameau.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM dans ce rendez-vous compte où Edouard s'influe. Edouard va continuer à nous parler de sa passion pour l'équitation. Alors, les auditeurs l'entendent bien, donc tu mêles à la fois passion, études et quelle perspective professionnelle alors ?
Justement, l'idée c'est de poursuivre, essayer de croiser les deux dans la recherche, idéalement en tant que chargé de recherche. Pour une institution ou un musée, le château de Versailles bien sûr, il y en a d'autres. Là je sais que cet été je pars en stage à Saumur, au musée de la cavalerie et des blindés de Saumur, donc on continue, on avance et j'ai la chance de pouvoir là vraiment mêler l'armée, l'histoire et l'équitation, donc enfin, le cheval ça va être vraiment un stage magnifique et c'est là l'idée de travailler sur à la fois un aspect recherche et un aspect conservation du patrimoine. Donc c'est dans ces deux sphères-là que j'imagine pouvoir poursuivre professionnellement, surtout que pour être chargé de recherche, il y a vraiment quand même une importance au fait d'avoir un doctorat, donc enfin même une obligation. Donc c'est quand même, enfin c'est la suite logique, voilà celle que j'ai présentée à mon directeur de recherche d'ailleurs.
Un jour, quand il avait 2 ans, il a disparu. On l'a retrouvé dans l'écurie. Il dormait entre les sabots d'un énorme percheron. Il a dit que le cheval le protégeait. Personne n'aurait pu le convaincre du contraire. J'ai lu dans un article que vous aidiez les propriétaires qui ont des problèmes avec leurs chevaux.
Non, j'aide les chevaux qui ont des problèmes avec leurs propriétaires.
On a de la visite, c'est normal ?
Monsieur Booker ?
Oui.
Je voudrais que vous examiniez mon cheval.
Je sais pas si je peux faire quelque chose, mais je veux bien essayer, si tu m'aides. Ça te pose un problème ?
Je crois que c'est évident, non ?
Pas pour moi. Quand je travaille avec un cheval, j'aime bien connaître son histoire. Alors pour comprendre ce qu'il a dans la tête, il faudrait vraiment que je sache ce qui s'est passé cette nuit-là.
Ça arrive d'avoir peur de quelque chose, Tom Booker.
Je vous en prie, mettez-vous à l'aise.
Je me sens très bien.
Bon, alors, dans ce cas, servez les pattes.
Il en manquait un.
Merci.
IDFM, 98 FM.
Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM dans ce rendez-vous compte où Edouard Saint-Flou nous a parlé de sa passion pour l'équitation. Alors, Edouard, tu es militaire de réserve.
Exactement. D'ailleurs, il y a des petites nouveautés depuis nos derniers échanges, puisque là, je suis passé depuis maintenant une semaine. Je suis formateur en secourisme et en sauvetage au combat de niveau 1. Donc voilà, c'est quelque chose qui complètement mon profil, l'équitation, le cheval, l'histoire et un aspect militaire qui dépasse juste la recherche en histoire militaire. Et c'est un engagement. Voilà, alors actuellement, je suis première classe au 24e régiment d'infanterie qui est basé à Versailles, en plus à Versailles.
Bah oui.
Et non, c'est un engagement qui m'est cher parce que c'est vraiment. Je dois dire qu'à chaque fois que je vais. Que je pars en activité à l'armée, que ce soit pour un week-end ou que ce soit pour 2 semaines, ou même plus, ça fait vraiment une pause qui est nécessaire et on éteint un bouton et on passe en mode militaire. C'est vraiment un engagement fort qui complète vraiment ma vie.
Alors surtout qu'en ce moment, disons, la place accordée à l'armée, à la défense, est de plus en plus importante.
Exactement. Surtout, on a la chance d'avoir... la réserve qui est mise en avant, c'est une bonne chose parce que à la réserve on a cette chance d'avoir tous une vie professionnelle à côté et de pouvoir donc avoir des profils très variés à des postes très variés et de tous nous compléter et de nous retrouver. Voilà, je pense que ce qui me marque le plus, c'est que je me retrouve amis avec des gens qui ont 39 ans parce qu'on était en formation initiale ensemble et c'est des personnes que j'aurais pas rencontrées dans la vie civile et effectivement dans le contexte actuel là j'étais avec ce qui s'est passé au Moyen-Orient récemment, j'étais justement en formation de formateur secourisme quand ça s'est déclenché, donc d'être en uniforme au moment où ça se passe, il y a à la fois un côté rassurant et en même temps on a l'impression de, voilà, de faire partie d'une institution qui agit pour protéger la population, donc c'est plaisant.
Voilà, là, d'un autre côté, c'est plus le cheval qui va faire la guerre, sont les drones, en fait.
Oui. Donc c'est, voilà. Après, je dois dire qu'on a quand même quelques cas d'utilisation de chevaux dans les forces armées, notamment la Pologne qui utilise beaucoup de chevaux pour la surveillance des frontières. Donc le cheval ne disparaît pas complètement du paysage militaire, si on enlève les cérémonies, la garde républicaine, etc.
J'ai toujours aimé l'idée que notre vie nous appartienne. On peut en changer comme on le souhaite.
Pierre, regarde, c'est son cheval, Japlou.
Tu vas pas le vendre ?
J'en sais rien, ma puce.
C'est un tout petit modèle, hein, il est tout petit.
T'as jamais eu l'œil pour voir les bons chevaux, toi ? C'est comme pour les filles.
Faut que tu fasses un choix. Avoir une vie de petit bourgeois ou celle d'un cavalier qui travaille dur pour être un jour champion olympique à Séoul. Parce que c'était ton rêve, c'est devenu le mien.
Je me suis toujours demandé ce que ça pourrait être si je me remettais à cheval.
T'as pas trop perdu, hein ?
Il a du cœur, ce cheval.
Il a plus que ça.
Vous parlez de médailles, de dollars, de carrière. Mais lui, vous pensez à lui ? Vous avez rien compris, vous.
Vous avez raison. Tiens, un bon cheval, mais je suis pas un bon cavalier.
Si tu veux arrêter, arrête. Ta mère et moi, on n'aura jamais aucun regret. On a fait tout ça parce qu'on t'aime. Tu n'as rien à prouver et je sais que tu m'aimes aussi.
Tu te rends compte de la progression que t'as eue avec ce cheval ? La joie que ça procure à tout le monde, et surtout à ton père.
C'est ça, le père de mon enfant ? Un mec qui va pas plus se battre que ça ?
Il a besoin de votre confiance et vous de la sienne. C'est pour ça qu'il s'arrête.
Mais si je suis prêt à apprendre, à me rapprocher de lui, tu veux bien m'aider ? T'arrêtes pas, Java. S'il te plaît, t'arrêtes pas.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, 98 FM.
Alors, tu es aussi consultant en intelligence artificielle.
Ah oui, alors ça, c'est
ça, c'est sur ton CV.
Ça, c'est sur mon CV. Alors, c'est une activité que j'ai lancée quand j'étais en licence, okay. Parce que j'avais un peu plus de temps. Une fois que j'avais fini toutes mes obligations universitaires, il me restait du temps. Et j'ai décidé de me lancer dans ça en passant des certifications professionnalisantes avec l'entreprise IBM. Et en fait, j'ai construit, en tant qu'auto-entrepreneur, une petite entreprise, et avec la plateforme de freelance Upwork, j'aide des entreprises internationales à intégrer des IA de traduction dans leur fonctionnement. Ça a toujours été un job étudiant, mais une activité à côté de mes recherches et de mon parcours universitaire et militaire. Et ça m'a en fait fait gagner en maturité sur la gestion de l'argent, la gestion d'une entreprise, toutes ces choses que quelqu'un qui est en deuxième année de licence ne connaît pas forcément. Et même si aujourd'hui, je suis plus concentré sur d'autres projets, donc c'est un peu en pause en ce moment, je dois dire que ça m'a beaucoup apporté en hauteur sur certains points de vue. Quand on commence, et je dois dire que j'ai bien commencé, donc je gagnais bien ma vie quand j'étais en licence. En fait, on fait des erreurs de jeunesse avec l'argent, et après on ne les fait plus, et du coup... on apprend à être patient et voir haut, en fait.
D'accord. Et puis, si on veut faire un petit jeu de mots, il y a quand même un lien entre l'équitation et l'intelligence artificielle et tout ce qui est numérique. Ce sont les chevaux de Troie. Si on n'entend plus trop cette expression-là.
Un cheval de Troie pour parler d'un...
D'un virus.
D'un virus informatique, ouais. Après, moi, j'ai pas du tout travaillé dessus. J'ai travaillé vraiment sur juste les IA de traduction, les LLM, etc. Mais effectivement, ouais, c'est... Je pensais pas pouvoir rallier les deux, mais merci Didier pour ce
ce petit jeu de mots. Ouais.
Tu les prends par le col, tu les prends par le cou. Ils ont confiance en toi, ils ont confiance en nous. Les chevaux. Dans ces pays de brume où dorment les maisons, ils s'en vont sous la pluie chargés de goémons. Les chevaux. Comme l'homme attaché, comme l'homme promis, on les voit trébucher. Sous le poids de la vie, les chevaux. L'automne les emporte entre ses vignes bleues. Quand se ferment les portes, quand s'allument les feux, les chevaux. Compagnons de labour et de morne saison, ils sont là dans la cour à l'heure des moissons. Les chevaux. Ils traversent la vie sans regarder derrière, heureux qu'on leur ait mis en naissant des œillères. Parfois la guerre les prend comme sur les tableaux. Ils tombent lourdement les deux pattes dans l'eau. Les chevaux. Sans avoir eu le temps de comprendre à genoux, ils se font torero le dimanche à Cordoue. Les chevaux. Ils sont de tous les temps, de toutes les histoires, comme nous, cependant, comme nous, sans mémoire, les chevaux. Quand là, je les surprends, quand c'est bientôt la fin, qu'ils sont moins frémissants. Ils trottent déjà moins, les chevaux. Un matin de printemps, un matin de courage, ivre de lilas blanc, tu les mènes au village. Les chevaux. Et même dans la cour, rouge de tablier, l'ombre de tes souliers, les chevaux. Ils baissent un peu la tête, ils penchent un peu le cou. Ils ont confiance en toi, ils ont confiance en nous. Les chevaux, les chevaux.
IDFM, 98FM.
Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous recevons aujourd'hui Edouard Saint-Flou, cavalier, spécialiste dans la recherche de l'histoire militaire équestre. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes gens de ton âge qui sont, quand tu en parles avec tes copains ? Qu'est-ce Alors, qu'ils te disent
je vais déjà, quand j'en parle avec mes amis de la fac, je dois dire que quand je parle du cheval, je suis un peu tout seul dans la salle. Il y a des moments où voilà, on est en méthodologie de master et quand on parle, enfin, on présente chacun nos sujets et je vois bien que je suis un peu seul sur le sujet. Mais c'était sans compter sur cette superbe année de M2 que je fais, où j'ai rencontré des réseaux de gens, d'historiens et de chercheurs qui travaillent sur le cheval. Et maintenant, je me rends compte que je suis plus si seul que ça. Et ensuite, auprès de mes amis, forcément, un parcours en histoire, en recherche. Moi, beaucoup de mes amis sont scientifiques qui font des écoles d'ingénieurs, des choses comme ça. Donc forcément, je suis un peu l'alien dans le groupe. Après, je dois dire que la fac, c'est un parcours qui m'a bien plu parce que c'est un parcours qui demande d'être très vite indépendant parce que personne ne va vérifier qu'on fait nos devoirs et qu'on travaille. Donc soit on travaille, soit on est largué par-dessus bord, en gros. Et après, encore plus en master, parce qu'on arrive en master de recherche. Alors là, en recherche, pour tout dire, je dois avoir, là, j'ai peut-être 3h30 de cours en présentiel par semaine, obligatoire. Le reste, c'est de la recherche. Donc forcément, 3h30, on se dit, tu ne travailles pas du tout, en fait. Et en fait, si, parce qu'il faut réserver les documents aux archives. Donc ça se fait des semaines à l'avance. Il faut aller, il faut aller dans les sites d'archives, dans les musées, consulter. Et ensuite, il faut se donner des grandes plages horaires pour faire de la rédaction, pour éplucher les sources qu'on a. Et ensuite, rédiger et trouver les bons mots. Donc c'est un travail qui est vraiment qui demande vraiment de l'indépendance et de l'autonomie. Et ça m'a plu absolument. Donc je pense que si quelqu'un était dans une situation un peu similaire à la mienne sur un sujet de recherche, d'abord, la première chose à faire, c'est absolument de prendre un sujet qui est passionnant ou en tout cas où il y a un fort intérêt, parce qu'il y a vraiment des moments où je me dis mais c'est quoi ce sujet de débile, je vais tout jeter par la fenêtre. Et, et en fait, quand je regarde mon sujet, je me dis mais non, c'est le sujet parfait. Enfin, pour moi, c'est mon sujet parfait. Et donc ça me fait tenir et ça me remplit de joie à chaque fois que là je sais que quand je vais rentrer chez moi cet après-midi, je vais m'y remettre parce que hier je me suis lancé dedans et j'ai dû aller me coucher, donc j'étais arrêté dans ma rédaction, mais je vais m'y remettre cet après-midi et je serai très heureux de m'y remettre. Donc voilà, vraiment aller sur les sujets passion, et si la recherche intéresse, moi j'en ai discuté une fois avec un ami qui est en école d'ingé et qui m'a dit qu'il avait dû faire de la pseudo-recherche pour un travail qu'il avait eu à faire en groupe. Il m'avait dit que c'était un travail horrible et je lui ai dit qu'il n'avait pas goûté la bonne recherche, parce que moi je trouve ça juste... on se croit un peu Indiana Jones.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Écoutez l'histoire qui chante la gloire d'un homme aussi beau que son cheval. Sous le soleil brûlant du grand pays texan, vivaient cet homme et son alezan. L'homme et sa monture de noble figure chevauchaient dans la poussière. Plus libre que le vent de l'aurore au couchant et plus rapide que l'éclair. Menant son étalon puissant comme un canon, il galopait dans le désert. Crinière en bataille, sabots en mitraille, un ouragan sans frontières. Luciano Romero, c'est le nom de mon héros, disait comme le veut la légende. Avec toi, camarade, je serre entre mes jambes un volcan et quatre fusils. Des yeux clairs et brillants, une fleur entre les dents, Luciano disait à son cheval.
Que m'apporte le diable si je trouve une femme plus pure que toi ou plus fidèle? Vamos nos ya, vamos. Ya nos vamos. Vámonos ya.
Je suis née dans le milieu des chevaux. J'ai grandi avec eux. Dans les années qui ont suivi la mort de ma mère, j'avais passé un mois à m'occuper nuit et jour de Marquise. Elle était devenue le centre de mon existence.
À ta vie. Vachement bien cette petite, hein.
T'as sauté les bosses de Paloma et Pro, là. Tu crois quoi, que c'est moi qui vais les faire?
Pas sa vie à m'engueuler, jamais content.
Il est un peu ours, mais en fait c'est un timide.
Ouais, bah moi je suis pas dresseuse d'ours.
Qu'est-ce que tu m'as manqué?
On espère qu'un de nos chevaux fasse un miracle.
Alors maintenant, on va s'entraîner sérieusement. D'accord?
Ce moment, elle progresse.
L'autre jour, sur la piste, t'as fait un bon canter.
Merci.
L'écurie est à l'agonie, Louise. Y'a plus rien qui rentre.
Bah, t'as plus le choix, faut gagner le prix de Normandie.
Et pourquoi pas le prix d'Amérique?
Le prix d'Amérique.
Apprends à monter à cheval, après on part, ok?
C'est le fils la Cassagne. Son père, c'est un gros banquier.
Ah, au cas où vous seriez vendeur?
Elle est pas à vendre.
Ah, ah, elle est pas à vendre.
Tu vas te descendre, oui?
Ça va pas, t'es malade!
T'en auras d'autres, des chevaux.
Comment on va faire si on n'a plus du tout d'argent? Il fallait tenir. Ne pas se décourager. Marquise était notre bonne étoile. Ce qui compte, c'est la force de se relever.
Pourquoi voulez-vous monter à cheval?
Mais je veux pas.
Alors qu'est-ce que vous faites là?
Rien. J'étais en panne.
Tous ceux qui arrivent ici sont en panne, d'une façon ou d'une autre.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
Bon, bah merci Edouard. Un dernier mot peut-être sur cette expérience, non pas d'équitation, mais de radio.
Passionnant. J'adore parler du sujet, donc je pourrais être là pendant des heures. Très intéressant. Merci IDFM de me recevoir et de me laisser en parler. Merci Didier pour cette occasion en or. Et voilà, au plaisir d'entendre parler de n'importe quel auditeur qui voudrait discuter de mes recherches, en savoir un peu plus, voilà.
Ok. Alors maintenant, il est temps que tu découvres le croquis que Marine vient juste de finir. C'est assez incroyable. Et alors, Marine, où est-ce qu'on peut avoir connaissance donc, de tes œuvres en général, sur ton site?
Sur mon site www.marinegauvin.com, Gauvin, G-A-U-V-A-I-N. N'oubliez pas le A, s'il vous plaît, c'est très important.
Voilà. Et puis, on peut te retrouver aussi sur YouTube maintenant.
Tout à fait. J'ai été interviewée pour un nouveau podcast qui s'appelle Orange is the New Talk. Et donc, c'est en ligne dorénavant sur la chaîne YouTube Orange is the New Talk.
Voilà, on mettra le lien sur notre site de podcast. Voilà, merci Edouard, merci Marine. Ainsi se termine notre rendez-vous conte consacré cette semaine donc à Édouard Saint-Flou, cavalier et chercheur en histoire équestre militaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau numéro de rendez-vous conte sur IDFM évidemment. Et en attendant, je vous retrouve également dimanche matin dans la matinale de Mehdi pour ma chronique Nec plus Ultra, consacrée aux expressions issues du latin et de la mythologie grecque. À bientôt.